Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charlie.
Alors aujourd'hui, on reçoit un jeune journaliste qui a beaucoup fait pour le reportage de terrain.
Ah bah c'est moi ça, je suis invité.
Non, elle dit journaliste.
Oui, bah non, enfin. Martin Veil, c'est celui qui a démarré avec Yann Barthès dans le Petit Journal, chez Quotidien.
Ouais, bof.
Quoi, bof, moi j'aime bien.
Moi j'aime pas trop, moi. Non. Ah
bah, il est allé partout, enfin, en Chine, aux États-Unis, en Ukraine, en Syrie.
Moi aussi je sais faire ça.
Enfin, t'exagères.
Bah, pas du tout.
Non, mais attends, toi, tu vas sur des marchés dans le 12e.
Bah, c'est pas vrai, j'ai fait Corbeil-Essonnes, Levallois-Perret, Puteaux, tu connais Puteaux ?
Bah, pas bien, non.
Bah, voilà.
Bon, disons que Martin Veil, quand même, il va dans des endroits inhabituels.
Bah, quoi, comme moi, le salon du cocooning, la foire de l'emballage, le championnat du monde de tricot.
Bah, mais ça n'a rien à voir, Guillaume, enfin, Martin Veil, il prend des risques.
Bah, note qu'à la Fashion Week, habillé comme Guillaume, c'est un risque d'y aller.
Non, mais ça va, c'est pas l'Afghanistan.
Attends, j'ai fait pire, je suis allé à un meeting de Laurent Wauquiez, j'ai vu défiler ma vie, quoi. Bah, je suis l'Indiana Jones du journalisme.
Attends, très bien Guillaume, ok. Alors je vais te proposer une mission.
Eh ben, pas de problème, vas-y, c'est bon.
T'envoyer dans un endroit où peu de gens sont revenus indemnes.
Vas-y, je suis chaud, c'est un terrain pour moi, ça pas de problème, vas-y.
Tu vas te rendre en reportage à la cantine de Radio France.
Quoi ? Mais tu veux ma mort ? J'ai pas fait tous mes vaccins.
Guillaume !
Ok.
Et ramène des flambis.
Ouais, bah si j'en reviens.
Bonjour la France Inter. Vous écoutez la start-up de Radio France, une émission où notre principal souci, c'est vous. Car nous avons entendu votre message et que nous n'oublions pas nos engagements de mener 3 sujets vers les tops de 18h. Les voici.
Main bien posée sur la table.
Enfin, je me fais chialer. Les journalistes sont sous tension. Désormais, pour partir en reportage dans Paris, il faut être équipé d'un micro, d'un casque, d'un masque et parfois d'un agent de sécurité. Et sur les chaînes d'infos en continu, les risques sont aussi en continu.
Retrouvons Stéphane sur cette terrible affaire de prise d'otage à Meudon-la-Forêt.
Est-ce que ça bouge, Stéphane ?
Non, ça ne bouge pas, je mets pas mal de likes.
La prise d'otage, Stéphane ?
Non plus, c'est vraiment très très...
Profitant de la dynamique des gilets jaunes, les étudiants sont en mouvement. Les lycéens protestent contre Parcoursup ou la réforme du bac, tandis que dans les universités, on s'élève contre l'augmentation du ticket d'entrée pour les étudiants non européens. Il en dit quoi, Jean-Michel Blanquer ?
Ramassis de feignants ! Ils s'en foutre ! Voilà ce que c'est que les jeunes d'aujourd'hui !
Voilà. Aux États-Unis, beaucoup de futurs parents découvrent le sexe de leur enfant lors d'une fête où un maître de cérémonie est chargé de leur révéler s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon par le moyen le plus original possible afin de partager cette découverte sur les réseaux sociaux.
It's amazing! It's great! It's wonderful! It's beautiful! It's cute! It's so lovely! Oh my god!
Voilà. Bah oui, vous vous demandez ce qu'on ferait si les ricains n'étaient pas là, n'est-ce pas?
Exactement! Bonjour Charlie de Valenacker! Eh bien, une belle équipe. Aujourd'hui, figurez-vous, à 17h20, celle qui, depuis qu'elle triomphe à Paris, nous appelle Guillaume et moi, du même nom que la salle où elle joue, les deux ânes. C'est vous, Constance.
Oui, bonjour.
De quoi on va parler ?
Mais je vous conseille d'enfiler des bonnes chaussures de marche, c'est la journée mondiale de la montagne.
Très bien. Ça fait rêver. À 17h30, celui qui, parfois, ne doit même pas poser de questions aux Français pour qu'ils aient déjà des réponses, c'est Guillaume Meurice.
C'est vrai, et je vais vous causer de l'intervention de Manu, évidemment, hier soir, quoi. Je suis allé voir les Français et ils nous adorent.
Non, mais moi je préfère RMC, c'est beaucoup mieux.
Ouais, pas tous, on a encore un petit peu de chemin.
Et à 17h40, attention, j'ai mis un tout bon jeu de mots. À 17h40, celle qui lit plus que Jean-Claude.
Elle est excellente.
C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Mais comme vous avez bien fait de prévenir, je l'aurais jamais trouvé.
Mais c'est pour ça, j'ai senti. Il était un peu complexe.
Il y avait la vache aussi, la vache qui lit. Oui. Mais c'est un peu plus subtil. Allez-y, Juliette.
Oui, de quoi on parle ? Est-ce que c'est possible de parler de faire le récit d'une secte et d'être poétique ? Eh ben oui, c'est possible.
Ah bah non, vous avez spoilé la chronique. Oh bah écoutez pas, vous irez pisser pour l'instant là.
En plus c'est la journée de la montagne, comme l'a dit Constance, donc il y a une cohérence. Restez avec nous, c'est quand même une cohérence. Voici celui qui va animer notre open space. Vous êtes
Martin Veil. Salut.
Par Jupiter.
Bienvenue Martin Veil.
Merci.
Martin Veil et les nouveaux gourous. C'est ce soir sur TMC à 21h. Martin Veil, on vous connaît comme reporter à Quotidien. Et ce soir, vous présentez votre propre émission de grand reportage. Vous êtes allé renifler tout autour de la planète, il faut le dire, ces individus manipulateurs qui se font passer pour des sauveurs, qui profitent de la faiblesse des gens pour avoir une emprise sur eux.
Jean-Luc Mélenchon, quoi, en fait. Et hop là, on vient de perdre.
Vous êtes en plateau et puis vous prenez le téléspectateur par la main pour l'emmener avec vous, voilà, dans différents pays, voir différents gourous, parfois très très difficiles d'accès que vous réussissez à interviewer. Alors, d'abord, vous représentez une nouvelle génération de reporters à la télévision. Vous avez votre émission long format le soir, un peu comme Charles Villeneuve ou Bernard de la Villardière.
Qu'est-ce qui... Non, mais elle est contente de vous recevoir.
C'est pas de compliment, là.
Ça, c'est quand elle est contente.
Mais qu'est-ce qui vous différencie de vos aînés dans cet exercice-là de long format?
Qu'est-ce qui nous différencie des aînés Je sais pas exactement, je pense que oui, c'est une approche un petit peu différente. Nous, l'idée, on a envie de parler de choses parfois sérieuses, mais sans trop se prendre au sérieux. Et après, sur la forme, oui, c'est vrai que c'est aussi différent. C'est incarné, comme ça peut l'être ailleurs, mais on a une incarnation qui, je pense, est différente de ce qui se fait d'habitude. Et puis là, l'idée aussi, c'est que on fait, nous, les reportages. C'est-à-dire qu'on est... On est à chaque fois sur chacun des reportages, et on est là, on découvre et on voit. Et en réalisation, c'est différent aussi,
Vous avez testé, éprouvé, vous y êtes. C'est vrai qu'il y a la prise de distance aussi. Vous vous autorisez le sourire, vous ne prenez pas au sérieux, il y a un peu d'humour. L'humour, ça met la distance et c'est quelque chose que vous vous permettez, qui se font très très bien et que vous n'êtes pas les vieux briscards.
Oui, et puis l'idée, c'est de... Si on fait quelque chose d'incarné, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les réactions, en fait. C'est-à-dire que quand on va là-bas, j'ai des réactions. Surtout quand on voit ces nouveaux gourous, on a parfois on rit ou parfois pas d'ailleurs, parfois on est choqué, parfois
et celui qui se prend pour Jésus, on rigole bien quand même.
Bon, on se marre pas mal, mais il est aussi touchant. Enfin, en fait, je trouve que être avec le journaliste, on y va ensemble, on découvre les trucs ensemble, ça apporte quelque chose. Donc j'ai pas du tout la prétention d'être exactement comme tous les jeunes de 30 ans comme mon âge, mais en tout cas cette idée là de viens avec moi, on va regarder ce qui se passe là-bas. Voilà, je pense que c'est
et
ça.
Et vous y amenez votre personnalité aussi. Alors, c'est très diversifié. Alex évoquait un gourou qui se prend véritablement pour Jésus.
C'est peut-être Jésus.
Et c'est peut-être Jésus.
Exactement.
C'est vrai. On va en parler. États-Unis, Canada, il y a aussi ce qu'on appelle les masculinistes qui font des stages pour endurer les choses que les femmelettes n'endureraient pas. On va y venir. Il y a aussi ces gourous, ces chamans en Amazonie qui proposent des stages dont la base est la prise de drogue, qui s'appelle l'ayahuasca, voilà, qui provoque des hallucinations, des vomissements, etc. Mais c'est pour se reconnecter à soi-même.
Exactement.
Tellement compris. Et là, on s'est tous posé cette question, parce que ce sont des longues séquences, on a le temps de voir vraiment ce que c'est. Vous passez la nuit avec eux, vous les voyez prendre ces drogues, halluciner, gerber aussi. C'est filmé la nuit en caméra infrarouge. Et puis vous les observez, vous restez là, mais vous ne testez pas.
Non.
La volonté, c'était parce qu'il fallait vraiment observer ou il y a véritablement une prise de risque que vous ne pouvez pas vous permettre.
Il y en a plusieurs, effectivement. Si tu es toi-même en train de vomir, c'est plus dur de décrire les gens. Non, mais il y a plein de choses.
Personne n'a jamais essayé ça.
Vous l'avez dit, c'est considéré comme une drogue en France. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays étrangers. Ce n'est pas le cas dans certains pays en Amazonie, dans la plupart d'ailleurs. Et ce n'est pas le cas dans pas mal de pays européens. D'ailleurs, toute une partie du sujet s'est consacrée à quelqu'un qui a ramené ça dans les pays européens où c'est légal. Mais donc, chez nous, c'est illégal. Moi, je suis journaliste à la télévision. Je n'ai pas le droit de consommer une drogue. C'est interdit. Et puis après, il y a d'autres choses. Ce n'est pas du tout une drogue récréative, cette plante. C'est pour des gens qui sont en situation de burn-out, de grande détresse, de grande dépression, qui ont essayé d'autres méthodes comme les antidépresseurs ou qui sont allés voir des psys pour lesquels ça marche pas forcément et qui veulent faire un travail sur eux. Donc c'est pas comme fumer un pétard avec un copain, quoi. C'est toute une démarche. Et quand toi tu t'es en train de travailler, de filmer, je pense que si tu prends ça la nuit, le lendemain matin ton JRI, ton caméraman, et il n'a pas envie de te récupérer en train de lui dire j'ai vu ma vie défiler, j'arrête l'émission, tout ça c'est terminé. Bon courage.
Je pense que Pascal Praud l'aurait fait, mais voilà, ça c'est
possible.
Et on peut aussi revenir à un instant sur un autre aspect de ces gourous qui sont assez révélateurs de la société en Amérique du Nord, c'est ce qu'on appelle les masculinistes. Ouais. Là, vous tombez sur un nid de tarés. Est-ce que...
Alors, on peut se dire ça exactement, on tombe sur un nid de tarés. Mais allez interviewer des tarés, il y en a partout. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là-bas, c'est pas juste des tarés, loin de là. En gros, les masculinistes, donc c'est en réaction au féminisme, ça marche à plein là, en réaction à MeToo, à... et c'est des gens qui expliquent aux hommes, si vous allez mal, c'est à cause des femmes, c'est parce qu'on nous a castrés, c'est parce que le féminisme est allé trop loin, du coup, t'es malheureux, l'ennemi, c'est les femmes, et la solution, c'est qu'on redevienne des vrais bonhommes.
Mais ils sont durs avec eux, ils leur font écouter des chroniques de Juliette Arnault, des trucs comme ça, enfin, c'est vraiment,
vraiment violent.
Oui, il y a des pays où c'est autorisé, ça.
Et du coup, il y a plusieurs parties, dont une dans un camp, donc c'est un camp, ça ressemble vraiment à un camp militaire. Pour ceux qui ont vu Full Metal Jacket, on est en plein dedans. Et donc, en gros, c'est des hommes qui sont prêts à payer 10 000 dollars la semaine pour aller écouter un type qui s'appelle Garrett White et qui a des positions sur les femmes et l'état du monde.
Très intéressant,
je vous recommande. Et qui donc sont prêts à ça pour aller mieux dans leur vie parce qu'ils pensent que ce type-là va les sauver. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Et derrière, on parle à l'intellectuel du mouvement, il s'appelle Jordan Peterson. C'est quand même un grand, grand académicien canadien. Il est très reconnu là-bas, très réputé. Il vend des millions de bouquins. Là, il a fait plus de 80 conférences. C'est blindé partout, en Europe, aux États-Unis, évidemment, et au Canada.
Vous l'avez pisté, hein, celui-là.
Ah, on l'a bien pisté, ouais. Mais finalement, il a accepté de nous répondre. Ouais. Et c'est pas à la marge. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui rassemble énormément de gens.
Et qui est révélateur d'une lame de fond dans la société.
Exactement. Ouais. Et nous, on n'est pas là pour juger les gens qui vont dans ces camps ou les gens qui le suivent. Au contraire, c'est ce qui se dessine un petit peu dans tous les reportages qu'on a fait, en tout cas, ce qui nous a frappé. C'est que, évidemment, ces gourous-là sont intéressants. Ce qui est super intéressant, c'est le profil des gens qui les suivent. Et c'est pas des fous. C'est pas tous des antiféministes. C'est pas tous des gens qui sont au bout de leur vie. C'est nous, franchement. Et la puissance de quelqu'un qui vient te voir en te disant « t'es malheureux », moi je vais te dire pourquoi t'es malheureux et je vais te donner la solution, ça marche fort.
Et c'est ce soir que vous pouvez voir tout cela, c'est Martin Veil et les Nouveaux Gourous, c'est sur TMC, c'est à 21h. Si vous voulez une sorte, il y a un petit côté, on entre dans un reportage de Guillaume Meurice, mais puissance 1000 et autour de la planète, c'est intéressant.
C'est un très très beau compliment.
Alors là... Je sais que vous vous appréciez tous les deux, je me suis permise. Alors, nous avons un programmateur musical très facétieux, Djoubaka. Vous allez immédiatement comprendre pourquoi... En ce moment, vous êtes sur France Inter, c'est par Jupiter. Police on my back, les Clash. Quand je vous disais que Djoubaka, il était facétieux. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter et c'est Martin Veil, notre invité, le reporter qui est ce soir sur TMC avec un format long, son émission Martin Veil et les Nouveaux Gourous. Alex, pour entourer Martin ?
Eh bien j'ai mis Guillaume, j'ai mis Constance et j'ai mis Juliette, voilà, que des gens brillants.
Et Martin, attention, là vous allez faire du... C'est ce qu'on appelle du desk, hein. Nous on sort pas du bureau, on regarde les dépêches AFP, mais là, là-dessus... Ouais, mais là, vous perdez la main, là tout de suite, c'est sûr.
Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous.
Le journal de presque 17h17.
Prenez pas trop pour une bleusaille quand même. Un combat réel, je me défends pas trop mal.
Et on commence par les titres.
Après l'allocution d'hier, 59% des Français se disent pas convaincus par le président de la République.
Eh oui, les 41% regardaient plus belle la vie à la place.
Emmanuel Macron a donc annoncé que le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019.
Oui, en réalité, c'est la prime d'activité qui sera revalorisée. Alors, elle est où la poudre de perlimpinpin?
Elle est brève.
J'annonce une augmentation des brèves dès 2019, que vous soyez SMICard ou non d'ailleurs. Hop, c'est calot.
C'est bon. Fions-nous quand même.
Et donc ces annonces alors.
Des annonces. Emmanuel Macron a évoqué une prime de fin d'année défiscalisée qui serait versée par les entreprises qui le peuvent.
Qui le peuvent, autant vous dire que les employés qui vont en toucher une, ça se compte sur les doigts de la main de la Vénus de Milo.
Le président a également annoncé le retour de la défiscalisation des heures supplémentaires.
C'est marrant, le Nouveau Monde, il a vachement la tronche de Sarkozy.
Justement, Emmanuel Macron a reçu Nicolas Sarkozy vendredi.
Ah, faudra pas s'étonner si samedi prochain, pour la manif, les CRS remplacent les canons par des karchers.
Non, attendez. Parce que selon une révélation de Marianne, samedi dernier, les blindés de la gendarmerie étaient équipés d'une arme puissante pour neutraliser les foules avec une réserve de liquide incapacitant. Mais c'est une arme qui n'a finalement pas été utilisée.
Du liquide incapacitant. Alors, ça veut dire qu'ils envisageaient sérieusement d'asperger les manifestants de Beaujolais nouveau. C'est très, très, très chaud.
De son côté, François Bayrou salue un nouvel acte qui s'ouvre après le discours d'Emmanuel Macron.
Oui, on dirait que la succession d'Édouard Philippe est ouverte.
Et pour clore ce sujet, apparemment une liste gilets jaunes devrait se présenter aux élections européennes.
Ouais, j'ai l'impression que les gilets jaunes, ils ont tellement marre de leur boulot qu'ils cherchent un emploi fictif et les européennes, c'est cadeau.
Passons à la protection des animaux.
Oui, Gérald Darmanin.
Attends, non, c'est pas gentil, Alex.
Non, c'est pas lui. C'est parce qu'il a fait une vidéo avec un perroquet sur l'épaule au Noël des animaux, organisé à la SPA de Tourcoing.
Ah, c'est beau.
Avec Cocotte, on vous invite ce dimanche. Au Noël des animaux, il faut venir adopter les animaux, hein, Cocotte, c'est vrai. Hein? Voilà, il faut venir. Allez, les Tourquenois, on vient aider la SPA.
Vous voyez les deux, Cocotte, elle est gentille avec lui, il est gentil avec elle. Hein,
on a créé un monstre.
Tout est possible puisqu'il part à la Cocotte. International, oui. À Wavre, en Belgique. Oui. Un arrêté de la police a été prononcé par le maire de la ville pour interdire une manif de la police.
Oui, on évite beaucoup de problèmes en Belgique grâce à l'autogestion. Et ça, c'est quand même chouette.
Science, oui. Selon une étude américaine, passer trop de temps devant les écrans modifie le cerveau des enfants.
Et oui, je vous raconte pas une fois qu'ils sont adolescents et qu'ils commencent à regarder, touche pas à mon poste.
Selon une étude, le personnel hospitalier est deux fois plus malade que le reste de la population.
Oui, mais il est déjà sur place s'il se sent pas bien. Et ça, c'est chouette.
C'est vrai, des brèves.
Et des brèves, dans un entrepôt d'Amazon, un robot déclenche un répulsif anti-ours. 24 employés à l'hôpital, apparemment. Jean Lassalle a commencé à faire ses cadeaux de Noël.
Et la dernière,
alors ça c'est pour vous. Dans le Gard, nu et armé d'un crucifix, un homme a couru vers les forces de l'ordre en criant « Je suis Dieu ».
Ah oui, il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis.
Voilà, comme quoi si Jésus était arrivé en 2018, le christianisme aurait une autre gueule.
Et vous pouvez voir le vrai Jésus, enfin qui pense être véritablement Jésus ce soir, dans l'émission de Martin Veil sur TMC. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h. On en profite avec Martin. Aujourd'hui en France, les journalistes avancent casqués. Envoyés sur le front de l'insurrection tous les samedis, c'est pas Kaboul, mais c'est dangereux. Entre les projectiles d'un côté et les tirs de flashball de l'autre, on vous parle même pas des agressions verbales. Les rédactions donnent des consignes de sécurité, des casques, des masques, des brassards amovibles pour être tirés très très vite, et du matériel non siglé.
Mon cher Peter, ça y est, j'y suis. Même si mon déguisement n'est pas encore tout à fait fini, la casquette ainsi que les bottes ne me conviennent qu'à moitié. Je sens grandir en moi la flamme qui a dû animer les grands reporters de ce siècle. Je pense à Albert Londres, Günter Wallraff et autres Robert Namias.
La classe américaine. Michel Hazanavicius, Dominique Mézerette. Alors Martin Veil, les rédactions de télévision, elles ont même recommandé à certains journalistes d'aller filmer avec leur smartphone pour se fondre dans la foule des badauds qui filment aussi. Vous qui êtes journaliste, reporter, alors vous sillonnez la planète mais vous regardez la France aussi. Comment vous expliquez cette défiance très très forte au point de craindre pour la santé des journalistes aujourd'hui à Paris en 2018?
Bah, y a plusieurs choses. C'est des manifestations qui sont violentes. C'est assez normal que les rédactions cherchent à protéger leurs journalistes. Après, il y a plusieurs choses. Si si t'es en train de couvrir un événement et un petit peu entre guillemets la faute a pas de chance, tu t'en prends une, si je me permets de parler comme ça.
Ouais, bien sûr.
Ça, c'est une chose, et c'est normal que les rédactions protègent leurs journalistes, mais quelque part c'est aussi un petit peu le jeu. Si t'y vas et puis qu'il se passe ça, bon bah voilà, t'étais un petit peu prévenu. Après, il y a d'autres choses. Si c'est volontairement de la part d'un policier cibler un journaliste, qu'un policier reconnaît un journaliste et le cible, bah ça c'est grave parce qu'on est dans un état de droit. Mmh. Et enfin, si c'est un journaliste qui est volontairement ciblé par des personnes qui manifestent, c'est pas acceptable non plus. Par contre, ça pose effectivement la question du lien qu'on a avec la population et du désamour fort qu'il y a entre les journalistes et la population, en tout cas une partie de la population. Mmh. Donc ça, c'est un vrai... Je pense qu'il faut vraiment y réfléchir et se poser des questions. Par contre, le fait que les rédactions cherchent à protéger leurs journalistes, bah ça, enfin c'est évident.
Oui, ouais. Bien sûr. Oui, d'ailleurs, votre camarade Hugo Clément, heureusement qu'il avait un casque dans la manif il y a 10 jours.
Ouais, mais lui, pour le coup, il n'était pas en train de bosser à ce moment-là. Il est descendu pour faire quelques images.
Ah, ouais. Alors,
c'est le double pas de chance.
Ouais,
mais
ouais,
ça va, tout va bien.
Comme
mais par contre, oui. Après, les violences policières, évidemment, c'est choquant quand ça touche des journalistes.
Ce serait un tir de flashball.
C'est choquant quand ça touche des manifestants. C'est choquant quand... Voilà. Moi, j'ai pas d'avis particulier sur le mouvement.
Non, vous, vous nous
mais bon,
expliquez.
Ouais. C'est, non, mais ça, franchement, ouais, ça pose des questions. Ouais, c'est quand même assez violent.
Ouais. Le personnel politique a joué son rôle, notamment par l'émission Le Petit Journal, où vous avez poussé très loin dans leur retranchement des Jean-Luc Mélenchon, des Marine Le Pen, qui ont fini par vous refuser en expliquant à leurs aficionados que c'était vous le mal.
Bah, bien sûr, mais ça, pour le coup, c'est une autre partie du débat. Mais c'est évident qu'il y a aujourd'hui des partis politiques, il y a des leaders politiques qui passent leur temps à dire que les journalistes sont l'ennemi du peuple. C'est quand même dingue de dire des choses pareilles, et je pense qu'il faut pas les laisser dire. Qu'on soit pas d'accord avec des journalistes, que certains fassent pas convenablement leur travail selon certains, c'est une chose. Par contre, les scènes où les politiques qui disent à leurs militants, aux gens qui les suivent, il faut casser du journaliste, de toutes les manières ils sont là pour mentir, de toutes les manières les journalistes c'est l'ennemi du peuple, c'est grave. C'est ce que Trump fait aux États-Unis. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir ça en France?
Non, mais ça marche. Mais
c'est une stratégie. Marche, évidemment. C'est une stratégie. Évidemment que ça marche. Mais c'est il faut combattre ça.
Ouais,
mais par contre, il faut le combattre intelligemment. Ça sert à rien de dire non, je vous assure, on fait bien notre travail. C'est à nous de le prouver. Ça, pour le coup, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Pourquoi est-ce que ce lien il s'est brisé? Pourquoi est-ce que les gens nous font plus confiance? Alors qu'on est bien informés en France. Mmh. Et ça, en se baladant ailleurs, on s'en rend compte quand même.
Mmh. Et voilà, tout ça nous rappelle que l'information a un prix, même quand on va simplement faire un reportage sur les Champs-Élysées à Paris. Mmh. Martin Veille avec nous, il est 17h29 et c'est Constance qui est avec nous ce mardi. Quelle joie!
C'est la montagne!
Nous sommes le 11 décembre et c'est la journée mondiale de la montagne. Alors j'entends déjà les moqueurs dire que ça ne va pas leur faire un deuxième trou du cul, ce thème de journée mondiale. Eh bien je leur conseille de faire attention à leur langage, parce que les gros mots, ça n'est pas beau. Et pour les petits cochons qui pensent que parce que je vais parler de la montagne, je vais parler des castors qui fabriquent des barrages avec leur grosse queue, je vous conseille également de vous calmer. Tous, nous avons besoin d'un élément naturel pour nous ressourcer. Pour certains, c'est la mer, pour d'autres, c'est la forêt ou la montagne, pour mon tonton, c'est le pinard. Mais il faut bien reconnaître que la montagne est partout, même quand on n'a pas les sous pour aller glisser dessus à Stadt. Quand on est petit, ce qui est une montagne, c'est d'aller dire bonjour à son pépé qui bave et qui nous laisse toujours une vieille trace de salive qui pue sur la joue. Ensuite vient l'adolescence, où pétri de timidité et d'acné, on tente de comprendre comment fonctionnent les rapports humains, et Aurélie, notre copine de 6e, qui branle les garçons sous la table pendant les cours de biologie, nous explique que quand son père a abusé d'elle, sa mère lui a demandé de ne pas en faire une montagne de cette histoire. Puis nous devenons des jeunes adultes et nous voulons aimer et construire. Et c'est vrai qu'en tant que jeune femme, j'étais au début très attirée par les mecs bâtis comme des montagnes, genre Stallone dans Rocky 1, avec des bras comme de la dynamite, des pectoraux et des abdos comme de la dynamite, des muscles partout comme de la dynamite. Mais une fois le slip tombé, quelle déception, une si petite mèche pour autant de dynamite. Et puis les années passent et la vie nous tombe dessus, comme une grosse avalanche. Les enfants, les factures, le quotidien, les collègues à la con, le crédit de la baraque et la flemme de baiser nous acculent. J'ai dit accule, hein. Nous croulons sous une montagne de choses à faire. En un mot, nous sommes sous l'eau comme le petit Grégory. Heureusement, arrive la crise de la quarantaine où nous prenons enfin un petit peu conscience de notre condition de mortel, où bien souvent nous pensons pouvoir échapper à la mort en prenant un amant ou en achetant une Porsche. Tels des fiers alpinistes, nous pensons escalader le temps, mais malgré nos efforts, c'est toujours lui qui nous escalade, parce que nous sommes en sursis. Alors arrive la vieillesse. qui rend tout tellement difficile. Ouvrir une boîte de conserve, se laver, se lever, ouvrir les yeux. Le remonte-pente est cassé, le sommet n'est plus qu'un vieux souvenir et on prend conscience qu'on est parti à la montagne toute sa vie pour faire comme tout le monde, alors qu'on aurait préféré partir à la mer.
Constance,
c'est beau.
Merci.
C'est vraiment très beau.
Merci. Martin V, je pense que les masculinistes que vous avez interviewés dans votre reportage seraient ravis de rencontrer Constance.
Ravis.
Avec bonheur pour Martin.
Exactement. Ouais.
Je mettrai du rouge à lèvres.
Merci Constance. Martin veille avec nous dans Par Jupiter et toujours dans la série. Nous avons un programmateur musical facétieux. Il nous a programmé Pascal Danaé. Respectez-nous.
Nous, je l'ai pas fait. J'attends pour nous.
Inter, Par Jupiter. C'est Martin Veil qui est en notre compagnie, avant de passer tout à l'heure à Juliette Arnaud et de discuter de divers sujets. Guillaume Meurice, c'est marrant parce que Martin Veil, vous dites, quand j'ai commencé ma carrière de reporter, j'étais un peu spécialisée facho. J'adore parler avec des gens qui ont pas du tout mes opinions.
Ouais, c'est vrai.
C'est un peu ça.
Bah ouais, c'est quand même ce qui est chouette dans notre métier. C'est, ouais. Bon, pas que les fachos, évidemment, et heureusement, mais c'est de voir des choses qu'on voit pas tous les jours ou en descendant en bas de chez soi. Et là, avec ce que j'ai fait pendant 5 ans, et puis là, cette émission-là qu'on crée, ouais, c'est ce qu'il y a de plus.
Martin
à titre
Veil,
personnel,
ouais,
en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant, c'est voir des personnes, avoir accès à des réalités auxquelles on n'a pas accès.
Et là, vous avez discuté avec des gourous, c'est ce soir sur TMC. Ça vous en rêvez aussi, ça, Guillaume Meurice. Ouais,
dès que j'ai un peu
de budget. Il y a une filiation, là.
Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je vais m'occuper de Jupiter aujourd'hui, parce qu'il a parlé, ça y est. Il a mis un petit peu de temps, parce qu'il fallait qu'il descende de son complexe de supériorité. Mais il a parlé, alors dans un style, on l'a tous vu un petit peu constipé. Hein, on sentait qu'il avait du mal à lâcher. Il était tendu comme un gilet jaune au salon de la lacrymo. Il avait les deux mains comme ça à la place sur la table. On sentait que même lui avait peur de se prendre un coup de matraque dans la gueule. Il était comme ça. Il s'est dit, je pense que la prochaine fois, il parle directement avec les mains sur la tête. Mais il a parlé. Il a parlé. Alors, il a filé quelques miettes. Hein, 10 balles par-ci, 10 balles par-là. On était à deux doigts d'un chèque cadeau à la FNAC et d'un abonnement à Brigitte Moquette Magazine. Mais il a parlé. Il a parlé. Alors, quel est l'impact sur les Français? Bah, je suis allé les voir ce matin pour savoir. Hein. Vous savez, j'aime bien aller sur les zones de guerre civile. Hein, mais seulement quand elles sont à 3 stations de métro de chez moi. Je suis un petit peu le Martin Veil du pauvre, hein, dans cette émission. Et on commence avec un premier Français mécontent de Macron qui les prend. Pourquoi?
Il nous prend pour des cons. Ouais. Et en France, on est loin d'être cons.
Mais pourtant, il y a des gens qui ont voté pour lui, alors est-ce qu'ils sont pas...
Ben moi, le premier, je me suis fait avoir. Vous savez, dans la vie, on se fait avoir.
Dès le premier tour, vous avez voté?
Ouais, sur ce coup-là, ouais, j'étais vraiment con.
Oui. Est-ce que Macron n'a pas raison, finalement, de prendre les gens pour des cons, hein? C'est une stratégie qui paye, au final. Qui paye pour devenir le roi des cons. Mais vous savez, on est tous le con de quelqu'un, et ainsi de suite, jusqu'à Pascal Praud. Alors, on enchaîne avec également un électeur de Macron du premier tour.
J'ai voté pour lui, c'est pas ce qu'il faut. Tant qu'il réintroduira pas un petit peu d'impôt sur les riches, et puis c'est tout.
Mais pourtant, dans son programme, il l'avait dit, de toute façon. Que...
Oui, il l'avait dit, mais bon...
Pourquoi vous avez voté pour lui, alors?
Parce que il est jeune et ça me plaisait bien.
Oui, alors, d'accord. Sauf qu'avec ce type d'argument, le prochain président, c'est Kev Adams. Donc, faut arrêter ça. Je dis pas que Kev Adams aurait fait moins bien que Macron, d'ailleurs, mais sachez-le quand même. Alors, j'ai aussi croisé des gens ce matin qui aiment Macron, hein, faut être honnête, notamment cette dame.
Moi, je le soutiens parce que je trouve que 40 ans, pas d'expérience, un type intelligent, cultivé... Quand on dit qu'on le comprend pas, moi je trouve qu'il parle un très bon français, qu'il y a pas mal de journalistes feraient pas mal d'apprendre le français aussi.
Allez bam, prenez bien ça dans la gueule, les Martin Veil, les Vanunacker là, rendez la carte de presse. Les Français, ils vous croient plus, de toute façon, voilà. Hein, allez, on continue toujours avec cette dame qui en a marre des gilets jaunes.
Il y a des limites. Hein. Donc maintenant, ils ont bien manifesté. Je pense qu'ils ont été entendus.
Parce que pendant que Macron parlait hier, le Sénat a voté la fin de l'exit tax.
Alors il y a peut-être des choses qui se catapultent, qui sont pas très heureuses. Hein.
Là, il y a catapultage. A priori, oui.
Peut-être, il y a des choses qui ne sont pas très coordonnées.
Voilà, des choses pas coordonnées, donc des choses qui se catapultent, hein, comme on dit dans la France qu'on aime et qu'on en a marre que des fois qu'on cause pas bien et qu'on est bien content que d'avoir ce président, parce que qui d'autre?
Il n'y a pas dans la classe politique, ni même de gens qui émergent, ou alors faudrait chercher complètement dans le privé des grands patrons. Mais vous voyez ce que ça donne pour Carlos Ghosn?
Ah oui, Carlos Ghosn pour remplacer Macron, là, c'est pas... Là,
non. Non, mais je veux dire qu'il faudrait des gars de ce calibre.
Ah, si on avait des gars de ce calibre, c'est vrai qu'on serait pas mal, mais c'est vrai, on a viré Cahuzac, Dassault est mort, on n'a plus des gars de cette trempe-là. Hein, si on mettait Al Capone président, bah, j'imagine ça réglerait quand même pas mal de problèmes. Allez, on enchaîne avec une autre dame qui a également un avis bien bien tranché sur les gilets jaunes.
Mais il y en a, je vais vous dire, c'est des tirs la flemme, voilà.
Ah oui?
Oui. Donc ce que je trouve déplorable aujourd'hui, c'est que les gens ils veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Je trouve ça déplorable. Ils auraient fait la guerre, et ben ils se remueraient le cul. Voilà.
Ah voilà. Hein, c'est voilà. Ça qui nous manque. Ça reste quand même une bonne grosse guerre pour se remuer le cul. Et c'est vrai que dans les tranchées, ben ça causait pas TIPP flottante. Hein, je suis désolé, ça chouinait pas sur la CSG. Hein, même cette dame, elle a des solutions pour faire des économies.
Aujourd'hui, personne décore pour Noël parce que c'est morose. Avec des boîtes à chaussures et tout ça, on a décoré l'entrée de notre immeuble et ça nous a rien coûté, un paquet de commandes papier et un rouleau de scotch.
Ben voilà, vous avez des solutions pour la France.
Mais des solutions, tout le monde en a s'il se remue le cul.
Oui, d'accord, on est toujours sur le concept de remuage de cul, on a bien compris que c'était vraiment la base de réflexion. Mais c'est vrai que bon, bah, c'est un petit conseil déco pour chez vous, même si Brigitte Macron nous écoute, à mon avis c'est moins cher que la moquette à 300 000 boules. Hein, donc merci à madame, madame qui a du franc-parler. Hein.
Faut parler
franc.
Quand on parle correctement, les gens ne vous écoutent pas. Quand vous entendez parler, c'est je m'en bats les couilles. Un jour, j'ai dit, à force de vous les battre, vous n'en avez plus.
À force de vous battre les couilles, vous n'en avez plus. On finit sur ce conseil santé. c'est vrai que Macron, il s'en battait bien les couilles pendant un moment, puis il a été obligé de faire semblant d'être humble. Pendant ce temps, les riches dorment tranquilles. Hein. Bref, toujours aucun moratoire sur le foutage de gueule.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes tombé sur une bonne cliente?
Oui, il y en a toujours.
Merci Guillaume Meurice.
Je vous en prie, à votre service.
C'est Martin Veil qui est en notre compagnie. Et parlons de ces étudiants qui profitent du climat insurrectionnel pour tenter de se faire entendre. Quelques universités chahutent contre le tarif d'inscription très élevé qui frappe les étudiants non européens. Quelques centaines de lycées sont perturbés, environ 450, pour protester contre Parcoursup, contre le service national universel. Et bien sûr aussi, bon, y a la réforme du bac.
Tu en es où de ton admission post-bac? Parce que si j'ai bien noté, la date limite est dans 3 semaines, c'est ça?
Bah oui, c'est bien ça, oui.
Oui, parfait. Donc, quel est ton premier choix?
Bah, en médecine, tu sais bien.
Mais non, elle va faire du droit, c'est bien le droit, hein, ma chérie?
Ah bah non, j'ai pas choisi encore, en fait.
Comment ça? Tu sais pas encore? À 3 semaines de l'échéance, bah, va peut-être falloir te décider.
Bah oui, mais c'est pas facile aussi. T'es allé sur le site pour voir comment ça se passe?
Oui.
Tu balances tes choix en ayant une chance sur 1000 d'être pris dans tes 3 premiers et... Si t'as un bon karma, tu seras éventuellement pris dans ton 6e, voire ton 7e choix, alors bon.
Non mais où va la France? Tant que ce pays continuera à traiter sa jeunesse de la sorte, faudra pas s'étonner qu'ils partent tous faire leurs études à l'étranger. Hein. Moi, je peux vous dire que de mon temps à Sup de Courouen...
Un extrait de la série de France de Fais pas ci, fais pas ça. Alors, on entend les étudiants gueuler depuis plusieurs mois déjà, notamment avec Parcoursup il y a quelques mois. Alors, est-ce que les étudiants, ce seraient pas un peu des jeunes gaulois réfractaires, Martin Veil?
Des jeunes gaulois réfractaires? Ouais. Moi, j'ai eu encore une tête d'étudiant, mais je n'y suis plus.
Je sais. Non, mais vous avez 31 ans. Mais alors, j'ai lu que quand vous étiez en fac d'histoire, au moment des manifs, c'était au moment des manifs étudiants du CPE.
Ah oui, complètement, oui. Oui.
Ah ouais, bon, c'est vrai, ça doit vous paraître.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, j'ai appris le jambé. Non, mais j'en joue déjà. Non, mais plus sérieusement, ah oui. Après, on a toujours tendance justement à avoir un peu ce discours sur les étudiants. C'est toujours plus sympa d'aller dans la rue qu'en cours de maths. Mais c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des choses qui là ont été peut-être mal faites, en tout cas mal expliquées, que la communication est quand même un petit peu rompue. Et puis, enfin, Parcoursup, je suis désolé, mais c'est globalement un échec. Hein. Ouais. Ça a pas marché, ça crée de la frustration. Il y a plein de jeunes qui se sont retrouvés sans savoir où est-ce qu'ils allaient aller, ou un petit peu comme on entendait dans l'extrait là, éventuellement ton 6 ou 7e choix. Je suis pas sûr que ce soit exactement ce qu'il faille. Et puis après, sur la réforme du bac, j'ai pas d'avis particulier là-dessus, mais il y a quand même un petit risque de créer une éducation à deux vitesses. Et puis si le lycée dans lequel vous avez fait votre scolarité est plus important, parce que le contrôle continu est beaucoup plus important, ça veut dire qu'il va y avoir des lycées où c'est vraiment bien d'aller, c'est déjà un peu le cas, mais ça va être encore pire. Ça veut dire qu'il va y avoir certains lycées où cette spécialisation elle est super, alors que celle-ci ne va pas. Bon, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Faut les écouter.
Il y a des raisons d'être un peu en pétard. Et quand il y avait le CPE, vous êtes un petit peu impliqué dans le mouvement? Ou bien vous avez déjà ce côté journaliste où vous étiez un peu en retrait pour observer?
Un peu lâche, on pourrait dire.
J'étais déjà d'une lâcheté absolument parfaite.
Emmanuel Macron n'a pas parlé hier soir de la jeunesse, dans le fond, qui se fait entendre. Pourtant, il y a quand même des lycées perturbés, parfois bloqués. On a vu ces images à Mantes-la-Jolie avec des jeunes...
Ça en fera des souvenirs.
C'est ce qu'a dit Ségolène Royal. C'est quand même pas négligeable par rapport aux revendications des travailleurs et des salariés. Vous êtes un peu plus âgé, vous avez 31 ans, c'est ça, ouais. Martin Veil. Mais vous êtes encore dans cet entre-deux, quand même, proche de cette jeunesse qui vous écoute.
Je sais pas encore ce que je veux faire quand je serai grand.
Qui vous écoute et qui vous suit. Ça vous a peut-être interpellé que Macron n'en parle pas?
Moi je suis pas juge et puis je suis pas journaliste politique, donc c'est pas à moi de juger l'allocution d'Emmanuel Macron. De toutes les manières, il y a tellement de choses visiblement en ce moment qui vont pas très bien, il y a tellement de gens qui ont envie qu'on leur parle et qui ont envie qu'on leur explique quelle est la politique qui est menée, que vous trouverez de toutes les manières dans cette allocution beaucoup beaucoup de choses, beaucoup beaucoup de gens qui n'y sont pas. Après, c'est vrai que de ce que j'entendais hier, de ce qui remontait, c'est vrai qu'on peut, on peut se poser la question. Et les jeunes notamment, je suis d'accord, c'est quand même l'avenir du pays. C'est un président qui est assez jeune, c'est un président qui a beaucoup misé aussi sur la jeunesse. C'est vrai que c'est étonnant de ne pas en avoir parlé.
Il a à peine 10 ans plus que vous, hein, Martin Veil, vous savez, Emmanuel Macron.
Mais oui, c'est vrai.
Ça calme tout le monde.
Alors sur Twitter, ça suit le débat. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il faut dire les réformes du bac et non la réforme du bac, car le lycée pro est menacé lui aussi.
Ah, oui.
Et ce pseudo, c'est Prof Enroll, qui donne peut-être un indice sur le métier de ce tweetou.
Effectivement. La réforme du bac est attendue en 2021, mais il ne faut pas attendre. Les images de Mantes-la-Jolie, ça, j'imagine que ça a interpellé tout le monde autour de cette table.
Ah oui.
Ouais, plutôt. Hein.
Ça va nous faire des souvenirs à nous aussi.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est effectivement.
Même les mots, les phrases des CRS aussi.
Oui, c'est ça. Ouais.
Rappelez-les.
Il y en a un qui dit il faudra montrer les images aux profs, ça va les amuser, des choses comme ça.
Ouais. Oui, c'est... ah bah voilà, enfin une classe qui est sage. Ouais, c'est voilà, de la périphrase, ouais, mais c'est globalement ouais.
Vous voyez
ce
qu'il faut mettre des flics dans les écoles. Ouais. On disait oui, les flics à l'école, gna 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 gna. Bah non.
C'est marrant que d'ailleurs que c'est des CRS ou des gendarmes qui sont face aux gamins ouais. Et qui
sont carapacés en tout cas.
Que la symbolique du truc leur échappe, qu'ils sont encore en train de faire des blagues alors qu'il y a des mômes à genoux.
C'est eux qui filment en plus.
Ouais. C'est étrange.
Oui, c'est étrange.
Mais le monde est un peu étrange en ce moment, hein, ça, on vous le cache pas. D'ailleurs, vous pouvez le voir ce soir, hein, que le monde est étrange dans l'émission de Martin Veil, vous allez tout de suite comprendre. C'est à 21h sur TMC, on vous la recommande. Juliette Arnaud, vous nous faites des recommandations littéraires, vous?
Oui. Un roman qui s'appelle c'est exactement ça que je fais. Un bouquin qui s'appelle Eden Springs, qui est écrit par une écrivaine américaine qui s'appelle Laura Kasichke. Je dis Kasichke parce qu'elle est d'origine allemande, donc je me dis qu'il faut dire comme ça. Bon, bref.
Demandez à Vizorek qui a fait un Erasmus en Allemagne.
Kasichke. Ouais, on dirait Kasichke. Bon, bref. On va commencer par le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est un fait divers? C'est un événement tragique qui attire l'attention parce qu'il frappe sans prévenir, souvent des personnes ordinaires. C'est un événement sans portée générale pour autant. Alors, pour résumer, journaliste, activité noble, fait diversier, activité méprisable. Par là-dessus, vous rajoutez fait divers qui fait diversion de Bourdieu. Et là, carrément, tout le monde se pince le nez. Mais quand même, depuis fait entrer l'accusé, vous ne dormez plus jamais la fenêtre ouverte. Depuis le petit chaperon rouge, vous ne vous promenez plus dans les bois, même quand le loup y est pas, avec une galette et un petit pot de beurre. Pour autant, on a tort de faire du dédain, balayer le fait divers et qui voudrait ajouter parmi les meilleures pages de la littérature mondiale. Au hasard, de sang-froid de Truman Capote ou La menthe anglaise de Marguerite Duras. Qui cherche les deux la même chose finalement? Pourquoi? Capote s'est ingénié à enquêter lui-même, quitte à nouer un genre d'amitié trouble avec les assassins Dick, Hickok et Perry Smith. Duras transpose les faits, mais le résultat est le même. La criminelle de Duras reconnaît tout, mais ne dit jamais pourquoi. Laura Kasichke a bien compris ce truc. Quand elle saisit son fait divers à elle, elle se libère de cet angle mort. À aucun moment du livre, elle n'est dans la tête de l'homme à l'origine du fait divers et du côté des victimes qu'elle flâne. Quel est son fait divers? Un qui est arrivé dans sa terre natale, le Michigan, en 1903. Il y a un jeune gars, Benjamin Purnell, très joli de sa personne, qui fonde la maison de David. Il est prédicateur autoproclamé. Il prend un domaine de 400 hectares pour des adeptes qui arrivent de partout, y compris de France. Ils font des activités agricoles, les arbres fruitiers en fleurs, les jeunes filles en blanc et en fleurs, les hommes en blanc aussi. Personne ne se coupe les cheveux ou la barbe. C'est des hipsters, on fait du sport, il y a un parc d'attractions. Et Cherry, on the cake, la promesse. Attractive la promesse, hein, il s'agit de pimper la vie. Une promesse qui suit scrupuleusement la formule de toutes les sectes.
Plus c'est gros, mieux ça passe. C'est la devise.
Plus c'est gros et mieux ça passe.
Voilà, c'était la devise à Chirac, c'était aussi la devise à Goebbels. Ici, la promesse de Benjamin Purnell est la suivante. Après la fin du monde, non seulement vous ne mourrez pas, mais vous vivrez en mode jeunesse éternelle. Je cite l'écrivaine, « Personne ne souhaitait vieillir, personne ne souhaitait mourir. C'était la religion de Benjamin. » Sa vision, le corps juvénile, la joie de vivre avec. L'idée avait frappé Benjamin un jour, avait-il raconté, comme l'éclair, alors qu'il n'était encore qu'un petit garçon. La mort n'existe pas, avait dit l'éclair. Bon, je vais vous faire de la peine. L'éclair racontait une infox, la mort existe. Et après quelques années, la maison de David a explosé. C'est que Benjamin Purnell couchait avec toutes les jeunes filles, tellement en fleurs qu'elles étaient mineures. Ah, les sectes! Qu'ont-elles toutes en commun? Et alors de tous les temps, hein, votre doc Martin Veil ne me dira pas, c'est pas votre doc qui me dira le contraire. Qu'est-ce qu'elles ont toujours en commun? Toujours un homme, à sa tête, en gros. Toujours un homme avec un ego en surcharge pondérale, un homme qui n'a pas fait vœu de pauvreté et souvent avec une libido, disons, créative. Et qui, s'il n'est pas Dieu, lui est toujours relié d'assez près, soit de sa famille, hein, il est de sa famille, soit il sait entendre Dieu et le traduire, soit c'est un homme, et je cite un des personnages de votre documentaire, un homme qui a eu les couilles de dire la vérité, il est prophète, il est père, il est ange et surtout il incite dans nos temps modernes, il incite façon New Age de penser seul, c'est super, mais comme moi, c'est mieux. Bref, ce sont des guignols, mais étrangement, tu ris pas trop. Laura Kasichke ne cherche pas à faire rire non plus. À l'aide de photos, de coupures de presse, de témoignages de l'époque, sa plume devient apte à saisir les brumes, la présence du surnaturel dans la réalité brute. Elle trouve le moyen de glisser de la poésie dans une chose finalement extrêmement commune, l'emprise d'un homme sur d'autres, et ce goût indémodable de ces autres, à croire à des promesses si puériles qu'elle semble imbattable. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci, rappelez-nous l'éditeur.
Alors l'éditeur s'appelle Page à Page, elle s'appelle Laura Kazischke, tout ce qu'elle écrit est bien, et celui-là aussi, ça s'appelle Eden Springs, et c'est avec une postface de Lola Lafont, et c'est traduit... Je le dis jamais. Ouais, là, je fais. Ouh, je le dis parce que c'est une fille, Céline Leroy.
Merci Juliette Arnaud. Martin Veil avec nous. Et chez les Ricains, on organise une fête pour révéler le sexe du futur enfant aux amis et à la famille. D'ordinaire, c'est le gynécologue qui vous informe à l'échographie. Ici, l'information est placée dans une enveloppe scellée et révélée par le maître de cérémonie que vous avez choisi et qui choisit un moyen original pour vous faire l'annonce lors de la fête, comme faire éclater un ballon. Qui expulse des confettis bleus ou roses, bien sûr.
C'est brillant.
Sinon, il reste la méthode artisanale.
Il arrive, je vois là. Allez, allez, encore un dernier effort. Allez, poussez,
dites-nous poussez, juste si c'est un garçon ou une fille, parce que si c'est une fille, on prend. Si c'est un garçon.
C'est un garçon.
Vous avez un prénom ?
Décide.
Jean-Claude.
Mensonges et trahison. Et puis, si affinité, le film de Laurent Tirard. C'est un article paru dans M Le Monde. Le sexe de l'enfant est révélé donc par une personne qu'on a choisie comme maître de cérémonie. La cérémonie est filmée, partagée sur les réseaux Made in USA. Et comme vous avez sillonné les États-Unis, vous avez fait aussi une longue émission spéciale Trump, Martin Veil. Nous, on a du mal à comprendre cette société quand même qui est très très puritaine sur certains points. Et d'un autre côté, il partage avec le monde entier un moment très intime maintenant qui est de découvrir le sexe de l'enfant. Est-ce que vous avez résolu un peu cette équation?
Est-ce que vous allez me demander, est-ce que vous prévoyez de faire pareil pour votre
enfant? Non, c'était pas prévu.
Cette équation, non. Par contre, il y a un truc que vous dites qui est très vrai, au-delà de l'état des États-Unis en ce moment, le fait qu'on partage aujourd'hui absolument tout, toute notre vie privée sur les réseaux, que quoi qu'on fasse... on se sente obligé de le partager, c'est incroyable aux États-Unis. La deuxième émission, moi je c'est pas pour faire de la retape, promis.
Non, allez-y.
Mais ça va être, on s'intéresse au corps parfait, au culte du corps, etc. Et donc il y a toute une partie justement sur ce qui nous est dicté via les réseaux sociaux et les comportements des gens en fonction de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux est hallucinant. Je suis complètement hors sujet dans ce que je vous dis, mais quand même, par exemple, un truc sur la chirurgie esthétique, il y a des filtres sur des applications comme Snapchat par exemple. Ils se sont rendus compte qu'en fait il y a énormément de jeunes femmes qui viennent en demandant, ou de jeunes hommes d'ailleurs, à réduire la taille du nez pour que ça ressemble au filtre, et les chirurgiens disent ok. Là-dessus, il y a une étude qui est tombée qui montre que quand tu prends un selfie, ça grossit ton nez de 30% mathématiquement. Voilà. C'est quand même dingue.
Il y en a qui vont se faire greffer les oreilles de chat et des nez, hein, à cause de...
Ça va finir comme ça.
Mais du coup, ça, c'est étonnant. Ouais. Mais franchement, venant de là-bas.
Tout est possible.
Non, la vraie question, c'est comment on fait si c'est des faux jumeaux?
Ah!
Parce que,
Et comment on fait si c'est un sexe indéfini?
Et aussi.
Paillettes violettes.
Il y a aussi le fait de faire un gâteau et de fourrer de crème bleue ou rose. Alors on ouvre le gâteau et bim. Il y a quand même un type qui a foutu le feu quand même à la. Je crois que c'est en Alabama. Il a foutu le feu parce qu'il a dit je vais faire exploser un pétard bleu et il a cramé 20 000 hectares. Tout simplement.
Ça s'appelle la sélection naturelle.
Derrière tout ça, il y a le côté, il y a le militer pour le genre de manière festive, mais c'est rose ou bleu, c'est le genre évidemment.
C'est comme toujours amusant pour le gamin. Pourquoi t'es orphelin? Parce qu'on a fait une fête et papa il s'est pété le pétard, ça a cramé toute la famille.
Et c'est là qu'on se demande si finalement il n'y a pas un côté où Trump est une sorte de grand gourou. Une question qu'on laissera et qui est un petit peu, en tout cas, sous-jacente à votre émission ce soir. Martin Veil, vous êtes comédien maintenant, si vous l'acceptez.
Ah, bien sûr. Vous connaissez l'idée du sketch. On ne vous a pas ennuyé une seule fois pendant l'émission en vous traitant de Tintin. Je sais que vous n'aimez pas ça. Ah non, dans le sketch.
Parfait.
Vous allez faire les aventures de Martin Tin.
C'est brillant.
On a réfléchi toute la matinée. Et tous les autres, on fera des personnages de cette célèbre série.
Mille millions de mille sabords, qu'est-ce qu'elle fait comme boucan, cette cafetière? En plus, le sac à puce s'en mêle. Martin Tin, qu'est-ce qu'il raconte encore, ton cabot?
Je comprends pas, il dit que c'est la Castafiore qui chante.
Ah non, pas elle.
Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je croyais qu'on était dans Martin Tin au Congo.
Ah, oh, on t'a pas dit, depuis la décolonisation, c'est un peu compliqué pour nous au Congo. En plus, ça ferait Martin Tin en République démocratique du Congo. Faut bien dire, ça ferait un titre un petit peu trop long.
Ah, oh,
tonnerre de Brest, qu'est-ce qui lui arrive encore à cette cornemuse de salon?
Mais qu'est-ce qui vous arrive? On vous a volé vos bijoux?
Oh non, je fais mes vocalises. Oh,
Oui, Milou, moi aussi hier, je me manque.
Oh, Martin, tu viens, c'est l'heure de l'apéro. On a du whisky, du rhum, il y a tout ce qu'il faut pour faire la fête.
Non, je cherche une enquête, parce qu'on a la moitié du sketch et j'ai toujours rien à faire.
Non, d'une pipe, mais détends-toi un peu, t'as l'air aussi coincé que Yann Barthès sur une piste de danse.
Vous êtes dur, capitaine.
Oh, Haddock, Haddock, elle est jolie, votre pipe.
Sacrebleu, elle me fout la paix, celle-là.
Oh, vous savez, Haddock, je maîtrise la flûte enchantée et mes amants disent que je chante aussi bien que
oui,
je...
Oui, ça suffit, on s'adresse à des enfants quand même.
Vous êtes qui, la fille de Mireille Mathieu?
Hello, c'est Dora. Aujourd'hui, nous allons apprendre les couleurs. On va commencer par le rouge.
Ah ben, moi, je veux bien un petit rouge, ouais.
Mais là, qu'est-ce que tu fais là, Dora? T'es pas sur TMC, toi?
Quoi? Parce que je ne mets pas de pantalon slim et des Stan Smith, je ne peux pas rester.
Non, mais c'est pas ça, c'est juste que...
Bon, allez, viens, Shipper, on va chez Hanouna.
Oh, dites-moi, Martin, vous avez trouvé un sujet pour votre reportage?
Non, c'est pas facile d'enquêter en ce moment pour les journalistes avec les gilets jaunes.
Ah bah, s'il y a bien un petit jaune, moi, je le prends.
Ouais, bon, ça suffit, Haddock. Mais dites-moi, Tournesol, vous avez pas un sujet sur lequel je pourrais enquêter?
Ah non, je suis pas endetté.
Non, mais laisse tomber, il est sourdingue. Depuis, on a marché sur la Lune, son esprit, il est pas revenu du centre spatial de Kourou.
Mais oui, c'est ce que j'ai, faut enquêter sur les gourous.
Martin Tain et les nouveaux gourous?
Oh, joli titre.
Oh, ah bah voilà, il m'aurait servi à quelque chose, ce moule à gaufre.
Il y avait une belle ambiance dans ce sketch.
On est désolé.
Et vous me faites croire que vous connaissez pas l'ayahuasca.
C'est la drogue de l'Amazonie qui permet de se reconnecter à soi-même.
Il est tellement pro, il ramène à la musique.
Il est très fort, ce Martin Veil. On était très heureux, Martin Veil.
Mais moi
de
aussi.
Discuter
c'est,
avec
c'est
vous.
Encore aujourd'hui. Mieux, en vrai.
Ah, merci. Alors nous, encore mieux en vrai, on n'a pas envie de se retrouver avec les masculinistes ou les gens en Amazonie ou encore avec le vrai Jésus, mais on va le regarder à la télévision ce soir sur TMC à 21h. C'est le premier d'une série où vous allez voir un petit peu les obsessions de nos sociétés. On va se retrouver demain avec l'économiste Julia Cagé qui nous parlera du prix de la démocratie.
C'est une autre ambiance.
Et on va terminer.
Je peux venir pour le skate.
On va terminer avec un conseil pratique donné par une madame à Guillaume tout à l'heure.
Mais des solutions, tout le monde en a s'il se remue le queue.